Théologie en liberté. Présenté par Michel Jass.
On cherche Dieu et on ne le trouve pas. Ou alors on le trouve sans le savoir. Ou autrement. Ou alors on ne cherche pas Dieu et on le trouve sans le savoir. On le trouve par l'autre, l'aventure de la vie et le temps du désir. Argument d'Épicure selon Lactance cité par Voltaire. Ou Dieu veut ôter le mal et ne le peut pas, ou il le peut, mais il ne le veut pas, ou il le peut, ni ne le veut, ou enfin, il le veut et le peut. Mais s'il le veut et ne le peut pas, c'est pour lui et pour nous avec lui l'impuissance et l'impuissance de Dieu. Et s'il le peut et ne le veut pas, au nom de la liberté, comme certains théologiens l'ont dit, au nom de la liberté par exemple, s'il le peut et ne le veut pas, donc notre choix, c'est qu'il n'est pas bon, que Dieu n'est pas bon. Alors, il y a cette question que nous avons, croyants ou non-croyants, d'où vient le mal sur la terre? Pourquoi la souffrance? À cette question, une histoire folle, celle de la Bible, vient nous répondre, mais de façon subtile, décalée. Attention, la Bible n'est pas simple. Il n'y a que les intégristes qui le prétendent, les fondamentalistes, comme les islamistes pour le Coran, ils disent « Oh, c'est simple ». Non, la Bible, comme les textes de l'Antiquité ou de l'Antiquité tardive, pour le Coran, la Bible a souvent été écrite avec un langage difficile, codé, souvent symbolique, avec des évocations multiples. Et l'histoire de la Bible, faite de réécriture, n'est pas simple. Et dire que c'est simple, c'est trahir la Bible. Rien à voir avec notre désir d'enfant gâté, de la course au miracle, tout est simple, ou du niaka des politiciens des extrêmes. La Bible présente des histoires longues, difficiles, subtiles, pour détricoter la souffrance, partager le mal et l'injustice. Une histoire. Je commence par cette histoire qui apparemment n'a rien à voir avec notre sujet, mais à laquelle je pense assez souvent. J'ai connu une personne de ma famille, très âgée. Elle est morte centenaire et qui avait eu beaucoup de malheurs dans sa vie. Et entre autres, particulièrement, surtout, la mort de son fils, le plus jeune, prisonnier de guerre, lors de la dernière guerre en Allemagne. Plusieurs collègues de détention sont revenus la voir, disant qu'ils avaient été, après avoir été prisonniers en Allemagne, ils avaient été pris par les Russes. Donc, ils avaient été libérés plus tard, en retard. Donc, cette dame attendait le retour de son fils dans les années 50, 60 et 70. Ses autres fils la plaçaient sur une chaise l'après-midi devant leur ferme et elle regardait le chemin qui allait jusqu'au portail en attendant son fils tout l'après-midi. Elle priait pour lui et puis elle est morte. Maintenant, une autre histoire. C'était quelques années juste après la dernière guerre mondiale. Edgar Maufré avait voulu passer de la Guyane française au Brésil, en pleine forêt amazonienne, par les monts Tumac-Umac, une des régions les plus mystérieuses du monde. Il avait juste 23 ans, plus personne ne le reverra jamais. Les journaux de l'époque avaient signalé l'expédition et puis cette bien triste affaire. Deux équipes étaient parties à sa recherche. En mars 1951, son décès fut tenu pour acquis. Et c'est là que commence une autre épopée, celle de Raymond Maufré, le père. Raymond Maufré, le père du fils perdu, était comptable à l'arsenal de Toulon. C'était un homme sans histoire, sans prétention ni aventure. Il se préparait à sa retraite et avait de faibles moyens. Convaincu que son fils ne pouvait pas être mort, il décida, en accord avec sa femme, d'aller chercher son garçon au sein de l'enfer vert. Il partit, n'ayant aucune expérience, aucun entraînement, ignorant tous des obstacles, des dangers qu'il pouvait rencontrer. Pendant 9 ans, il chercha désespérément son fils, l'appelant dans les profondeurs des forêts, affrontant les tribus indiennes les plus belliqueuses, les serpents les plus venimeux. Il allait, clamant à tout vent ses appels répétés, gravant son nom sur les arbres, laissant sur son passage des messages enfermés dans des bouteilles. Tandis que sa femme l'attendait patiemment dans leur petit appartement de Toulon, le père infatigable cherchait, dans toutes les directions, encore et encore, le fils perdu. Pour couvrir les frais d'une telle entreprise, les Maufré avaient fini par vendre petit à petit presque tout ce qu'ils possédaient. Argenterie, meubles, furent convertis. Après chaque expédition, en billets de bateau et puis d'avion, en équipement, pour retrouver leur fils, son fils. Alors, chers auditeurs, chaque fois que je lis dans l'évangile de Matthieu ou de Luc, cette parabole de Jésus qui raconte l'histoire de la brebis perdue, je pense à cette histoire vraie de Raymond Maufré, celle d'un père d'un fils disparu. Après 18 expéditions en Amazonie, il avait découvert des chemins nouveaux à travers la jungle, des passages qu'on ne connaissait pas. Il avait découvert des guets insoupçonnés, visité des tribus alors inconnues. Il avait eu tous les courages, toutes les audaces, et ne renonça enfin que lorsqu'épuisé, il fut certain de la mort de son fils. Quelques années plus tard, les journalistes vinrent l'interroger dans son petit appartement de Toulon. À tous, il répondit qu'on me laisse tranquille, ma femme et moi, je ne suis qu'un pauvre homme qui a perdu son fils et qui a fait ce qu'il a pu pour le retrouver, tout simplement, ce qu'il a pu. Eh bien, Dieu aussi, nous dit Jésus dans la parabole à laquelle je faisais allusion, la parabole de la brebis perdue, Dieu aussi est parti à la recherche de ses fils et filles perdus que nous sommes. Ce qu'un père humain, Raymond Maufray, peut faire pour son fils, Dieu le fait pour chacun d'entre nous, même si nous ne le réalisons pas. Vous savez, toute la Bible tourne autour de cette histoire. Cette parabole, finalement, résume aussi dans tout l'Ancien Testament, l'exil, l'exode. Notre vie est en danger, on le dit depuis la Genèse. Dieu nous aime comme un père et il nous cherche. La Bible nous dit « vous êtes perdus ». Donc il y a un drame dans notre histoire. On est perdu en Égypte ou à Babylone. Nous le sommes. Nous marchons dans la vie comme dans une région inexplorée. C'est ce qui est en même temps passionnant, intéressant, difficile, mais magnifique. L'avenir est devant nous. Qu'est-ce que la vie, une aventure ? Nous apprenons à marcher, nous apprenons à nommer les choses, les arbres, les ruisseaux, les chemins. Nous nous formons en géographie, en histoire, aux universités, nous allons, et malgré tout, l'avenir devant nous est comme une terre inconnue. Vous savez qu'il y a des dangers dans la vie, des voies à ne pas prendre, que le monde est comme une jungle. Nous pouvons nous perdre, oui, nous pouvons nous perdre, très loin de notre route, ou seulement tout près, à quelques pas du sentier. Et la Bible nous dit, pas seulement qu'on a été créé par Dieu, mais la Bible nous dit « vous êtes perdus ». Mais n'en reste pas là. Dieu nous cherche et il part à notre recherche avec Abraham, avec Isaac, Jacob, les prophètes l'un après l'autre, d'Élie à Ésaïe, les apôtres. Il part à la recherche des peuples, tous les peuples de la terre. Des plus jeunes, des plus vieux, des hommes et des femmes. Jamais Dieu ne peut prendre parti de notre perdition. Comme Raymond Maufray, qui est parti à la recherche de son fils, Dieu nous cherche pour nous sauver. Dieu est le sujet du verbe « croire » dans la Bible. On nous dit dans les religions qu'il nous faut croire tel dogme, etc. Non, dans la Bible, c'est Dieu qui veut croire en nous, malgré tout, malgré les difficultés. Explorateur malgré lui, explorateur par amour, Raymond Maufray a prouvé en cherchant son fils pendant 9 ans la force, le courage et la ténacité de son amour. De même, la Bible nous dit que Dieu est passionné. Nous l'avons entendu plusieurs fois dans la Bible, Dieu appelle, Dieu cherche, Dieu tend ses mains. Il y a des mots qu'il faut écouter dans la Bible, Dieu est bouleversé, Dieu est plein de foi et d'émotion, Dieu est fatigué quelquefois, découragé, mais il cherche à nous consoler, comme une mère console son enfant ou un père. Dès le livre de la Genèse, cela nous est dit. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux, dans Genèse 1, verset 2. Et le verbe employé en hébreu signifie aussi « couver avec amour », comme si Dieu était au féminin. Car la création de Dieu n'est rien s'il n'y a pas d'abord l'amour. Dieu est sensible, lui qui nous crée, qui nous cherche quand le mal est arrivé. Et puis nous reprenons le texte, la parabole de Jésus en Luc 15. On s'est donné beaucoup de mal pour justifier l'imprudence d'un berger qui abandonne 99 brebis pour aller en chercher une, la centième. Quelle imprudence! Quel manque de réalisme! Il y a quelque chose que Jésus ne dit pas ici dans cette parabole, mais qu'on trouve partout ailleurs dans la Bible. En fait, en réalité, nous sommes tous individuellement, avec nos joies ou nos souffrances, nos détours plus ou moins dangereux dans la jungle, nous sommes tous personnellement la centième brebis du Seigneur, perdue, cherchée et retrouvée. Et c'est pour cela que l'Évangile veut dire « bonne nouvelle ». Et donc l'Écriture, hébraïque d'abord, et puis du Nouveau Testament, est une bonne nouvelle. « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé », écrivait Pascal dans ses pensées. L'élan même de chercher Dieu, la vérité, le sens de la vie, l'amour, suppose déjà une rencontre préalable, implicite ou secrète. « Tu ne me chercherais pas, dit Dieu, si tu ne m'avais d'abord trouvé ». Voilà la théologie chrétienne derrière tous les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je rappelle cette parabole de Luc 15. Si l'un de vous a 100 brebis, dit Jésus, et que l'une d'elles vienne à se perdre, ne laisserait-il pas les 99 autres au pâturage pour aller là à la recherche de celle qui s'est perdue? Ne cherchera-t-il pas jusqu'à ce qu'il ait découverte? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la prend sur ses épaules pour la ramener? Sitôt rentré chez lui, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous le dis, dit Jésus, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie plus que pour 99 gens de bien qui estiment n'avoir pas besoin de changer. » Fin de citation. Donc, d'après la Bible et Jésus, l'amour pour Dieu et pour le prochain sont liés. Un peu comme dans le Magen David, vous savez, cette étoile qui fait le drapeau israélien, il y a un triangle qui va du ciel et qui vient sur la terre comme une flèche, et un autre triangle qui monte jusqu'au ciel. Et les deux triangles sont mélangés, c'est-à-dire que tout vient de Dieu et tout vient de l'homme. Et Calvin dit un peu la même chose. La connaissance de Dieu et du monde et de l'homme sont conjointes. En fait, nous cherchons comme humains parce que la conscience humaine est liée à un manque profond, réel. D'après la Genèse, il est dit qu'il manque à l'homme sa part féminine et à la femme sa part masculine. Et en cherchant, on a comme un mal-être dans la vie, ce qui fait aussi quelquefois la violence, la jalousie. En cherchant, motivé par ce manque, nous trouvons en fait, en réalité, notre identité et nous construisons notre vie. Alors, bonne recherche, tisseur de l'histoire. Dieu est dans les interactions humaines, animales, spatiales, naturelles et géographiques. On marche, on est comme dans la forêt, on cherche Dieu, on cherche l'autre, le prochain, qui est toujours au-delà et avec nous. À une prochaine fois. Oh.
Thank you.